Les balado-diffusions Simplement plein air sont rendues possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento. Offert avec traction avant ou intégrale, c'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Le froid, la neige. C'était à peine commencé que vous aviez déjà hâte au retour de l'été? Et si on changeait notre façon de penser? Et si les bordées de neige ne rimaient plus avec corvée de pelletage, mais avec plaisir? Et si on s'arrêtait 2 secondes pour contempler le paysage enneigé alentour de nous? À quel point c'est magique, féerique! Et si, comme des enfants, on s'enitouflait pour aller jouer dehors, marcher, skier? Et si on appréciait l'hiver? Me semble qu'on serait bien plus heureux. Pour bien apprécier l'hiver, bien équipé et au chaud, Pronature Rouyn-Noranda.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année. De toute l'équipe de Monsieur Bouffe 2015, joyeuses fêtes et bonne année. Dans notre monde, il y a des gens pour qui le hockey est une religion. Le football, la sainte messe d'un dimanche après-midi d'hiver. Et il y a des gens qui vibrent de plaisir devant un balai. Il y a aussi ceux pour qui la chasse est un mode de vie. Chez Simplement plein air, nos chroniqueurs passionnés partagent avec vous chaque semaine leur expérience et vous transmettent leur passion. La balado-diffusion chez Simplement plein air, c'est non seulement une passion, c'est un mode de vie.
Bonjour, chers auditeurs. Mon nom est Nancy Proulx-Martin pour la chronique Simplement Bouffe. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Il reste quelques semaines avant l'arrivée de Noël. Alors, ça m'a donné l'idée de vous concocter une recette de perdrix marinés de Noël. La préparation est 25 minutes, cuisson entre 1h et 1h35, ce qui donne 4 portions. Préparez vos papiers crayons, je vous donne les ingrédients. Vous avez besoin de 4 perdrix, 1 quart de tasse de raisins secs, 400 g de champignons, 2 oignons moyens, 600 g de beurre, environ 2 cuillères à soupe, et le mélange d'épices de Noël, donc 1 quart de tasse de cuillerée à thé de chaque épice moulue, dont de cannelle, de clou de girofle, anis vert, gingembre, muscade et cardamome. Ensuite, vous avez besoin de 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une demi-tasse de vin blanc de cuisson et sel et poivre au goût. Maintenant, pour la préparation, préchauffez le four à 375 degrés Fahrenheit ou à 190 degrés Celsius. Pelez les oignons et émincez-les. Nettoyez les champignons et coupez-les en quartiers. Salez et poivrez les perdrix. Dans une cocotte allant au four, faire fondre une cuillère à soupe de beurre à feu vif. Mettez les perdrix à dorer sur toutes les surfaces et quand ils sont bien dorés, jetez le jus de cuisson. Mettre le reste du beurre dans la cocotte, ajoutez les oignons émincés et les laisser suer quelques minutes. Remettre les perdrix, les champignons, le sel, le poivre ainsi que les épices moulues et le vin blanc. Couvrir et mettre au four pendant 1h30. 20 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez les raisins secs dans la cocotte. Assurez-vous de vérifier la cuisson. Si ce n'est pas assez cuit, vous pouvez laisser la viande encore quelques minutes au four. La viande devrait se détacher facilement. Comme accompagnement pour cette recette, j'ai choisi des pommes de terre grelots au beurre et au persil. Pour ce faire, vous avez besoin d'une vingtaine de grelots pour en faire 5 pour chaque convive. Nettoyez-les et coupez-les en deux. Dans une poêle à frire, faire fondre une cuillère à soupe de beurre et ajouter les grelots. Les faire dorer et juste avant la fin de la cuisson, ajoutez un petit bouquet de persil haché. Laissez cuire et, à l'aide d'une fourchette, vérifiez si elle entre facilement au travers. Sinon, laissez cuire encore quelques minutes. Mettre les perdrix dans les assiettes de service et ajouter par-dessus le jus de cuisson et les pommes de terre grelots. Voilà, c'est tout pour ma recette de cette semaine. J'espère que vous allez l'apprécier. Cette semaine, je vous offre la recette de la semaine ainsi que les autres recettes à venir sur la page web de Simple Banc Plein Air. Vous allez la retrouver à www.simplementpleinair-simplyoutdoors.ca sous l'onglet Simplement Bouffe. Alors maintenant, on va retrouver notre amie sommelière Mélissa Goyer qui nous a trouvé un vin pour accompagner la recette de la semaine. Allô, Mélissa!
Bonjour Nancy, bonjour chers auditeurs. Encore une fois, cette semaine, nous avons une recette super inspirante et pour laquelle je me suis vraiment amusée à dénicher l'accord parfait pour vous. Et j'ai trouvé, enfin, je crois. Je vous ai déjà parlé dans une chronique précédente de Pinot Grigio et je vous avais dit que bien que les appellations Pinot Grigio et Pinot Gris soient faits à partir du même cépage, leur goût en était bien différent. Alors cette semaine, c'est vraiment de toute la saveur et de l'opulence d'un bon Pinot Gris que nous avons besoin. Le Pinot Gris est un cépage originaire de la Bourgogne, mais qui est reconnu à l'Alsace et où il était appelé Tokaille jusqu'à tout récemment. Il fait partie des 4 raisins autorisés pour les crus de l'Alsace. C'est un raisin qui pousse en belles grappes avec de jolies teintes roses et grises. C'est vraiment un raisin en fait hyper tendance pour les couleurs 2019-2020. Alors moi j'aime ça quand ça fit, puis là mon raisin est à la mode, j'adore. Blague à part, c'est un raisin qui pousse bien dans les climats continentaux, donc puisqu'il résiste bien aux journées fraîches et même froides et également aux petites gelées saisonnières. Ce cépage est utilisé dans la production de vins secs, demi-secs et moelleux. Lorsqu'on se penche sur les saveurs dominantes de ces vins, on retrouve des fruits jaunes comme la poire et la pêche, des saveurs d'épices douces et sucrées, et également des notes fumées et de champignons. Vous comprendrez évidemment qu'à la vue de ces ingrédients, ça faisait vraiment aucun doute là, que ce vin était celui qui trônerait fièrement à la table près de votre perdrix de Noël. Au niveau de la structure, le Pinot Gris est vraiment un vin généreux, donc c'est un vin qu'on va qualifier de gras, avec une belle rondeur et du volume en bouche. Cette caractéristique est parfaite pour accompagner les plats de volaille, où la chair aurait tendance à être un peu plus sèche. Donc toute cette rondeur va venir envelopper les saveurs du repas en complémentarité, et puisque la finale est longue, c'est-à-dire qu'on va continuer de goûter le vin dans notre bouche là, bien après l'avoir avalé, on va donc rester sur les saveurs du vin entre les bouchées. Ce sont vraiment des saveurs ici qui sont similaires. Donc, on est dans un accord de continuité, ce qui va ajouter de la complexité au plat. Pour le choix de la bouteille, j'avais vraiment envie d'y aller avec un classique de l'Alsace, Léon Beyer, qui est une super maison. Par contre, cette bouteille n'est pas disponible présentement à la SAQ. Et là, pour ne pas vous présenter 2 semaines de suite un vin pas disponible, ben, j'ai trouvé un Pinot Gris de la Nouvelle-Zélande qui sera parfait. Donc, si vous prévoyez faire la recette un peu plus dans le temps des fêtes, ben, vous aurez le choix entre le Léon Beyer d'Alsace, qui devrait être de retour sur les tablettes, ou le Akaroa de la Nouvelle-Zélande. Ou pourquoi pas les deux, hein, pour goûter vraiment la différence entre ces deux vins de même cépage, mais de régions complètement différentes. D'ailleurs, les vins à base de Pinot Gris sont d'excellents vins pour accompagner vos repas du temps des fêtes, que ce soit avec la volaille, le gibier à plumes ou tout simplement avec un beau plateau de fromage. C'est donc à garder en tête pour cette période festive qui arrive à grands pas. Donc, de retour à notre bouteille, c'est donc Akaroa, Pinot Gris de Central Otago, en Nouvelle-Zélande, et c'est 25 $. On a ici vraiment un vin là, d'un beau jaune pâle, mais on peut tout de suite voir, là, bien que la couleur soit pâle, on peut tout de suite voir que le vin semble légèrement sirupeux. Donc, on peut appréhender le volume généreux du vin qui est souvent synonyme d'une haute teneur en alcool. Et c'est ce qu'on a ici, on est à 14 %, donc c'est assez élevé pour un vin blanc. Mais parce que les saveurs sont très aromatiques et puissantes et aussi parce que l'acidité est bien présente, ce degré d'alcool est parfaitement balancé. Comme la finale est longue aussi, on reste vraiment sur des saveurs fruitées et épicées plutôt que de rester sur l'amertume de l'alcool. On retrouve vraiment des odeurs, le goût même de poire qu'on aurait fait pocher avec de l'anis, de la cannelle, mais aussi des belles saveurs terreuses qui ramènent aux champignons, je pense ici aux pleurotes, et également du citron confit pour vraiment bien aller chercher à la fois l'acidité et le côté mûr et sucré des fruits. C'est quand même un vin qui a 11 grammes de sucre par litre, donc on est ici assez, donc c'est assez élevé, pardon, et ici considéré comme un vin demi-sec. Dans l'accord de la semaine, c'est vraiment parfait d'y aller avec un demi-sec puisque l'utilisation des raisins secs va ajouter une saveur sucrée au plat. Et donc, c'est toujours bien d'y aller avec un peu de sucre dans le vin. Comme l'acidité est vraiment présente, encore une fois, on a vraiment atteinte de l'équilibre tant souhaité et le vin ne nous paraît pas trop sucré en bouche. Donc, comme je disais plus tôt, là, ici, on a vraiment un accord qui est en continuité. Donc, vraiment, on retrouve les mêmes saveurs au nez et en bouche que les ingrédients dans la recette. Alors voilà, je vous souhaite une bonne dégustation de ce vin qui est Akaroa Pinot Gris de la Nouvelle-Zélande. C'est à 25 $, disponible un peu partout dans le réseau SAQ. C'était Mélissa Goyer
et Nancy Promartin pour la chronique Simplement Bouffe. Alors on vous souhaite bon appétit, bonne semaine et à la semaine prochaine.
Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année. De toute l'équipe de Monsieur Bouffe 2015, joyeuses fêtes et bonne année.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui sera vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Et nous voici de retour. Cette fois, on va jaser entreposage d'un petit bijou qui nous coûte quelques sous. Hein. On parle des arbalètes et des arcs. Et pour ce faire, ben, on va aller jaser avec M. Marc Prince de la boutique Pro Nature de Rouyn-Noranda. Salut Marc.
Salut Guy.
Hey. Beaucoup de questionnements. Hein. Là, c'est le temps, je veux dire, on est rendu là, là. Il n'y a plus vraiment de chasse, à moins là, qu'il y en a qui veulent aller au petit gibier avec leur arc, là. Mais le gros gibier est passé, c'est fini, c'est terminé. C'est le temps de ranger nos arcs et nos arbalètes. Y a-tu une bonne façon de le faire, puis y a-tu une mauvaise façon de le faire? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, c'est sûr, comme on me disait un petit peu hors onde, il y a deux lignes de pensée dans l'entreposage des arcs ou des arbalètes. C'est sûr que moi, j'ai mon idée, mettons, j'ai fait tout le temps mes entreposages de cette façon-là, j'ai jamais eu de problème. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser contraire, ça va être à vous de choisir, je ne vais pas partir de guerre de clocher là-dessus, je vais vous donner selon moi ce qu'il faut faire, puis ensuite de ça, ça va être à vous de décider vraiment là, la façon de l'entreposer vos machines. Comme on disait un petit peu, là, c'est sûr que il y a encore la chasse au petit gibier, mais souvent les gens vont pas aller à la chasse au petit gibier, soit à l'arc ou à l'arbalète, à cet instant, parce qu'on sait que dans la neige, les flèches sont pratiquement pas retrouvables. Fait que idéalement, là, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entreposer les machines. Moi, ce que je peux conseiller pour entreposer les machines, je sais qu'il y en a gros qui vont dire « Ouais, mais ils disent qu'il faut enlever les cordes dessus les machines. » Encore là, j'ai des petits doutes, des réserves là-dessus, parce que les compagnies qui vendent des arcs ou des arbalètes, je suis à peu près certain que ces machines qui n'ont pas été vendues durant l'année, je pense pas que ces compagnies-là vont aller dans les entrepôts ouvrir toutes les boîtes pour enlever les cordes dessus pour faire l'entreposage d'hiver.
Non, ça, c'est à peu près même, je te dirais, 90% certain. Mais est-ce que ça peut maganer les lames, par contre?
Moi, je vous dirais que, comme je disais tantôt, là, je ne suis pas dans le secret des yeux. Là, moi, je croirais que non. en tout cas, depuis les années d'expérience que je peux avoir dans le tir à l'arc, moi, je suis un tireur à l'arc à l'arbalète. Il est arrivé, je suis un gars qui tire pratiquement à l'année, sauf qu'il y a des années que j'ai fait moins de tir durant la période hivernale, puis j'ai tout le temps entreposé mes machines juste sans enlever de pression ou enlever la corde dessus, puis j'ai jamais eu aucun problème de cette façon-là. Je pense qu'est-ce qui fait en sorte qu'une corde va casser durant l'hiver, c'est plus la façon qu'elle est entreposée. En disant cette chose-là, je parle, il y a des gens qui vont entreposer les machines en laissant des flèches avec les lames de chasse dans le coffre.
Ouf, oui.
Ça, j'ai fait souvent des réparations à cause de ça. C'est que des lames puis des cordes, là, ça fait pas au bon ménage. Fait que c'est sûr que si on entrepose ces deux articles-là dans le même coffre, là, il peut arriver des bris. Et la flèche peut carrément tomber sur la corde. Des fois, juste durant l'hiver, on tasse le coffre, on pense pas à ça. C'est même qu'il arrive des bris. Il y a une autre façon aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont serrer leur machine. Puis déjà, les cordes sont vraiment avancées. Quand je dis avancées, c'est que c'est des cordes qui sont prêtes à être changées, mettons, qui ne devraient plus être sur les machines. Fait que si on serre déjà un arc là, avec une corde là, qui est pratiquement finie, mais il peut arriver un bris durant l'hiver. Une autre affaire aussi, c'est quand on va serrer ces machines-là, idéalement, mais on va faire une belle entretien, c'est qu'on va serrer les cordes. On va les entreposer là, dans un endroit sec, surtout pas là, un endroit où le soleil va plomber toute la journée dessus. C'est une autre affaire qui va faire sécher les cordes, puis même les autres composantes de votre arc, ils vont prendre l'âge plus rapidement que normal. Idéalement, on va la mettre à une place où c'est sec, où c'est quand même pas trop de lumière. On ne va pas mettre ça dans le grenier du garage, on ne descend pas ça dans la cave ou à grosse humidité. Idéalement, là, c'est un endroit là, sec, température modérée, puis dans ces conditions-là, il ne devrait y avoir pas de... Il ne devrait pas avoir de problème, mettons, pour l'entreposage de ces machines.
C'est ça. Puis, on peut-tu les entreposer hors de leur coffre là, ou de leur sac? Ou s'il faut, c'est mieux hein, qu'ils soient dans leur coffre ou dans un sac?
C'est sûr que quand on peut la mettre dans un coffre, c'est l'idéal parce qu'on risque moins d'accumuler de la poussière et qu'il y ait d'autres objets qui tombent dessus. Mais il ne faut pas oublier que les coffres d'arc, la majorité des coffres d'arc, c'est un petit peu comme les étuis rigides qu'on a d'armes à feu, là, la petite mousse là, qu'il y a dedans, là, les coquilles d'œufs, là, c'est vraiment là, un produit ça, qui va attirer l'humidité. Fait que peut-être une couple de fois durant l'hiver, là, si c'est un endroit qui n'est pas trop chauffé, là, d'aller vérifier de temps en temps, juste à vérifier les parties qui sont métal, s'il commence à se faire de la rouille dessus, là, ça veut dire que c'est trop humide. Ou ben non, carrément, il y a des sachets qui se vendent là, pour tirer l'humidité. Là. Vous pouvez en mettre un ou deux à l'intérieur des coffres.
Oui, ça serait une bonne idée parce que finalement, on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et à ce moment-là, le télescope, lui, qui est dessus l'arbalète, on le laisse là, lui, hein? On ne le bouge pas de là ou on l'enlève ou on fait quoi avec ça?
Non, absolument pas. Vous pouvez tout laisser la machine monter telle qu'elle. Ce qui est vraiment important, c'est comme on le disait tantôt, c'est de ne pas serrer les lames de chasse avec l'arbalète. Mais pour ce qui est du restant d'équipement, il n'y a pas de problème à serrer ça ensemble. Là. C'est aucun bris. Il ne faut pas oublier que si les gens qui vont faire, ils vont enlever carrément le corde soit sur l'arbalète ou ben non, ils vont descendre une tension sur l'arc. Mais l'année d'après, quand vous allez ressortir ça, mais c'est vous n'aurez plus le même setting là, que vous aviez là, l'année précédente. Là. Vous allez remettre ça en place, là, mais ça va être encore du réajustement, encore du fine-tuning, comme on dit dans un bon québécois anglais.
Oui, exactement. Non, c'est vrai que c'est important. J'ai vécu l'expérience cette année, croyant que mon arbalète était fine-tuned. Et puis, tu le sais, tu étais avec moi. On a marché, on a couraillé après un petit ours que finalement, on n'y a pas fait de dommages, on n'a rien fait, là. On ne l'a pas blessé, il n'a même pas saigné, mais ça aurait pu être pire. Là.
C'est sûr. Puis l'idéal, là, durant l'hiver, là, si vous avez du temps là, à tuer, comme on dit, là, pourquoi pas s'inscrire dans un club de tir à l'arc. Fait qu'au lieu d'entreposer votre machine, vous allez pouvoir vous pratiquer tout l'hiver, rencontrer du monde, faire de la jasette, se compter des histoires. En même temps, vous allez apprendre des autres archers aussi.
Hein. Absolument. Puis cette valeur qu'on n'a pas, est-ce qu'on peut faire ça aussi avec l'arbalète? C'est pas partout. Hein?
Non, je vous dirais que normalement, les clubs d'arc, il y en a plusieurs là, qui vont allouer un paillasson ou deux là, qui vont être pour le tir à l'arbalète. Mais avant de faire l'inscription, là, renseignez-vous vraiment auprès de vos clubs là, de tir à l'arc à savoir si l'arbalète est autorisée.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui le font, je te dirais. Là.
Non, absolument pas. Puis un autre conseil que je peux vous donner, si vous ne faites pas du tir à l'année, dans les dernières sortir votre machine pour aller commencer à tirer avec ça.
Ouais.
Sortez ça plusieurs mois d'avance, là, puis regardez s'il n'y a rien qui a brisé dessus, s'il y a des pièces à changer. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez aller en boutique, demander à des techniciens professionnels à ce qu'ils vérifient votre machine, puis aller pratiquer avant. Ne rentrez pas dans le bois en vous disant « je sais que ça l'année passée, ça a marché numéro un, ça va être pareil cette année.
Ouais. »
Des fois, là, il peut y avoir des petites choses qui ont changé.
Oui, absolument. Puis on sait très bien aujourd'hui que plusieurs personnes vont voyager pour aller chasser. Et puis on sait qu'avec les bagages, bon, puis c'est mis à travers de ça, il y a toujours des petites choses qui peuvent se passer. Donc, puis là, on arrive à la maison, les chasses sont finies. On prend même pas le temps de cirer notre corps de rien. On va aller dans le garde-robe, puis bon, oh, la visite, on se reverra rendu au printemps, là, surtout pour l'arbalète. Là, l'arc, comme tu le dis, c'est un peu différent. Mais il y en a qui le font pareil, tu sais, c'est pouf, ah ouais là. Fait que quand on la ressort à dernière minute encore, rendu au printemps, ben des fois on a beaucoup de petits problèmes. On peut avoir une belle surprise aussi.
Ouais, exactement. Je peux dire ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup de gens, on sait que dans le temps de la chasse à l'orignal, souvent on a des journées avec de la pluie, avec beaucoup d'humidité, c'est ça. Fait que... On fait notre dernière journée de chasse, on ramasse notre stock au camp, on met l'arbalète ou l'arc dans le coffre, on arrive à la maison, on ouvre même pas ça, on sort ça en garde-robe, on sort ça l'année d'après, là, c'est vraiment pas la bonne chose à faire.
Non, certain. Hey, écoute, Marc, le temps file trop vite, toujours trop vite. Si on veut te rejoindre, si on veut en discuter un peu plus, s'il y a des renseignements qu'on a peut-être omis de transmettre à nos auditeurs, ils peuvent te rejoindre de quelle façon?
On peut me rejoindre au magasin au 819-797-2300 ou on peut carrément passer en boutique au 59 Avenue Principale, Rouen.
Yes, sir. Donc, et rejoindre aussi Marc sur Facebook si vous avez des questions. Vous êtes hors du Québec, vous ne pouvez pas passer à Rouen. Donc, nous, la prochaine chronique, Marc, on va parler d'armes à feu. Parce que là, naturellement, ça aussi, on les range. Et puis que ce soit le fusil ou la carabine, parce que le petit gibier va terminer là, dans environ un mois et demi, il faut les ranger, mais il faut prendre des petites précautions, parce que ça aussi, c'est des petits bijoux qui coûtent cher.
Exactement. Un bon nettoyage chaque fois aussi. On en parle plus en détail dans une prochaine chronique.
Yes, sir. Donc, tu passes une bonne semaine.
Merci. Bonne semaine, gang.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Le froid, la neige. C'était à peine commencé que vous aviez déjà hâte au retour de l'été? Et si on changeait notre façon de penser? Et si les bordées de neige ne rimaient plus avec corvée de pelletage, mais avec plaisir? Et si on s'arrêtait 2 secondes pour contempler le paysage enneigé alentour de nous? À quel point c'est magique, féerique! Et si, comme des enfants, on s'emmitouflait pour aller jouer dehors, marcher, skier? Et si on appréciait l'hiver? Me semble qu'on serait bien plus heureux. Pour bien apprécier l'hiver, bien équipé et au chaud. Pronature Rouyn-Noranda.
Et nous voici de retour en studio. Cette fois, on va aller parler taxidermie. Et quand on parle taxidermie, naturellement, on se dirige vers la belle région de Présac en Abitibi. Et on va parler à Mme Martine Chevigny. Salut Martine.
Salut.
Hey, beaucoup de petites choses que tu as à faire, mais... Tu m'as envoyé une photo d'un boc chevreuil qui n'est pas dédaigné, hein?
Non, mettons que c'est pour le coin ici, là, c'est pas mal un beau chevreuil.
C'est un vraiment beau chevreuil, effectivement. Puis un autre problème que tu m'as raconté un peu, tu commences à manquer d'espace, Martine.
Oui. Ben là, les têtes d'orignal sortent tranquillement. Et là, les têtes de chevreuil arrivent, puis j'ai les autres projets qui arrivent, fait que c'est ça.
Ça prend de l'espace, hein? Surtout les têtes d'orignal, là, ouais. C'est sûr que, oh my gosh! On a vu des photos passer sur, justement, sur Facebook, là, je dis qu'il n'y a plus grand place dans le garage.
Ah non, là, j'ai accaparé le garage au complet, là.
Tabarouette, oui, on voyait ça, là. C'est impressionnant, par exemple, quand on voit des choses comme ça, là. C'est vraiment quoi, hein?
Oui, puis il y en a des beaux cette année, là. Je suis surpris, c'est ça, je dis tout le temps. Tu sais, vu que c'était l'année de la femelle, je m'attendais à avoir beaucoup moins de crânes à faire. Finalement, j'en ai autant que l'année passée. Puis beaucoup de gros bocs, là. Puis il y en a qui viennent de la région, là. Fait que c'est encourageant pour les chasseurs, là.
Oui, c'est intéressant. Puis une autre chose qu'on n'a jamais parlé, je pense, tu es mesureur pour Trophée Québec aussi, hein? Donc, tu me disais, Oronde, tantôt, que dans Trophée Québec, tu en avais mesuré deux l'an dernier. C'était des orignaux ou des chevreuils?
Des chevreuils, oui.
Des chevreuils?
Puis c'était... orignaux, j'en ai un qui était pas loin de se carrer, puis s'il aurait été tiré à l'arc, il aurait rentré.
Ah, OK.
Mais là, à carabine, c'était un petit coche un peu plus vert, fait qu'il ne se carrait pas, là.
Ils ne scoraient pas assez. Puis à l'arc, non. Ceux que tu as fait, te souviens-tu de leur mesure?
Non, je me souviens pas. Faudrait que je regarde dans mes fiches.
Ouais, OK. Mais c'était quand même bien pour avoir rentré dans Trophée Québec.
Oui.
Ça, c'est le fun dans ce temps-là, là, la grosseur de ça. Et puis, naturellement, ben, tu disais là, que tu avais envoyé des pots à la tannerie aussi, parce que là, il y en a beaucoup, là.
Oui, bien là, c'est ça. Là, je reçois mes chevreuils, dans le fond, de l'année passée, cette semaine.
Ah, fait OK.
Il faut que je me fasse la place dans le congélateur pour rentrer ces pots-là. Que là, je vais monter ça comme en décembre. Donc, les chevreuils, l'année passée, vont sortir. Là. Fait que,
c'est quand même...
C'est comme ça, le procédé. Là.
C'est ça. C'est quand même un travail assez ardu et minutieux, hein, parce que là, tu reçois ceux de l'année passée, ceux de cette année, tu en as envoyé pas mal là-bas. Ça fait l'ouvrage, ça fait une rotation tout le temps, parce qu'il faut que tu t'assures naturellement d'avoir de la place, là.
Oui, c'est ça. Fait que là, ben, il me reste encore quelques pots à envoyer. Là, j'attendais justement que les chevreuils rentrent pour récupérer mes bacs pour refaire chipper ça là-bas. Mais c'est ça, ça fait une rotation d'un congélateur. Puis là, ben, j'ai toujours des pièces là, que j'ai pas montées, puis il faut que je monte là, qui date de l'année passée. Là. Fait que
mm-hmm.
J'ai tout le temps un bon roulement.
Oui, ça n'arrête pas. C'est ça, c'est le monde y pense pas. Et puis là, commences-tu à recevoir autre chose que des orignaux, des chevreuils? On parle-tu de loups, on parle-tu de renards, on parle-tu d'autres choses?
Ben là, j'ai des demandes pour des lynx. Tête de lynx, okay. C'est pas encore confirmé. J'ai vu sanglier. Fait que c'est ça, j'ai quand même d'autres affaires qui rentrent au travers, mais c'est ça. Là, si ça rentre pas, ben je vais en profiter pour sortir ceux que j'ai ici puis que j'ai pas eu le temps de faire encore.
Oui, c'est ça. Et puis ici, on parlait aussi la semaine dernière, on avait parlé des cours de l'ATQ. Et puis il y en a encore un en fin de semaine là, qui s'en vient.
Oui, là, il y a eu quand même 8 étudiants pour le cours de tête de chevreuil. Ça a été une bonne formation. Je pense que le monde a apprécié. Puis là, en fin de semaine, c'est une formation pour les couleurs. Fait que dans le fond, c'est peinture de poisson, peinture de bec de canard, pattes de canard. Les nez d'ours, les bouches, finition de chevreuil, fait que c'est quand même une bonne formation aussi, là.
Oui, parce qu'on sait que la finition, hein, ouais. ça peut jouer sur qu'est-ce qu'un canard, admettons, un bec de canard, les pattes de canard, tu sais. Les gens pensent, il reste pareil. Non, il faut tout refaire, hein.
Oui, bien, c'est ça, ça perd ses couleurs, là, tu sais, c'est comme les poissons, on fait des reproductions de poissons, des fois, le monde, les prennent le poisson en photo, prennent toutes les mesures, puis on envoie ça là-bas, puis nous autres, il faut recréer la peinture dessus.
C'est ça.
Mais si tu le fais même avec la peau naturelle, elle perd sa couleur.
Oui, c'est assez spécial.
Aller chercher ça, là.
Oui, ouais, puis ça, c'est fait tout au Airless Gun, là, tu sais, C'est oui. minutieux, hein? Ça, c'est de quoi? J'ai oui. déjà vu faire.
Et oh, puis... ils font des points, ils écoutent un point de la tête d'une aiguille, là.
Oui.
Fait qu'il faut que tu saches manier ton airbrush, parce que sinon, c'est comme... ça se prépare partout, puis là, il faut que tu recommences, là. Il faut que tu remettes ton poisson en blanc, puis tu recommences.
Et my, ouais, c'est touché, moi, dire comme toi. Et puis, c'est juste ça, là. juste ça, c'est déjà un art, là. Tu sais, parce que faire l'animal comme tel aussi, c'est, tu sais, toutes les facettes de la taxidermie, je te dirais, là, peu importe, nonobstant, là, que ce soit une tête d'orignal ou que ce soit un poisson ou que ce soit un oiseau, tu sais, il faut que ça ressemble à un oiseau, il faut que ça ressemble à un orignal, il faut, tu sais... pas donné, ça, là. Là.
Comme
c'est
là,
des choses.
Là, on a reçu nos appétits qu'on avait chassés au Nouveau-Mexique, là, je pense que c'est 3 ou 4 ans.
Uh-huh.
Puis, c'est là, juste commander le moule, là. Fait que là, il faut que j'organise les mesures, la forme, le modèle. Là, ça vaut-tu la peine d'acheter le modèle déjà fait, le rapetissé, parce que là, il n'y a pas les bonnes mesures pour le format de wapiti que nous autres, on a tué. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même... Une recherche, là, j'ai quasiment passé l'après-midi là-dessus. Là,
oh là là, OK.
À regarder quelle forme que je vais commander pour celui-là. Là, tu sais.
OK. Puis ça va-tu être un corps ou juste une tête?
Une tête.
Une tête? Oui, ben c'est quand même des. C'est impressionnant. Là,
ben pour... là, juste le panache, il est vraiment imposant. Là.
Oui,
c'est un gros. C'est même pas un 6 par 6 ou un 6 par 7. Là, c'est un gros 5 par 5. Mais j'ai reçu les cornes, c'est vraiment énorme. Là.
C'est, ouais.
Fait que, ça va être assez impressionnant là, de voir ça accroché.
Ah oui, j'ai hâte de voir ça. On a hâte de voir les photos. Et puis, écoute, le temps file rapidement. Martine, si on veut te rejoindre, avoir de l'information, naturellement, là, sur un certain animal, ou parfois, c'est même des restaurateurs ou des personnes qui ont des boutiques qui veulent avoir un animal. Il y a possibilité de te contacter aussi là-dessus, hein?
Oui, ils peuvent toujours me rejoindre sur mon cellulaire dans le 819-442-2453 ou par Messenger.
Et voilà, c'était Mme Martine Chevigny qui nous parlait de ses encours. Et la semaine prochaine, on va en discuter encore et on va parler de... Il y a toujours de nouvelles choses avec Martine, donc c'est toujours intéressant. Donc Martine, tu passes une excellente semaine.
Bien, merci, bonne semaine.
Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année. De toute l'équipe de Monsieur Bouffe 2015, joyeuses fêtes et bonne année. Et nous voici de retour. Cette fois, on va continuer la discussion avec une amie que vous avez appris à connaître maintenant chez Simplement Plein Air. On a discuté avec la semaine dernière. Il s'agit de Madame Alice Pion, et oui, chasseresse française. Donc, on s'en va à la nage de l'autre côté de l'Atlantique et puis on va la rejoindre. Bonjour, Madame Pion.
Bonjour, Guy. Comment allez-vous?
Ça va très, très, très bien. Écoutez, la semaine dernière, Alice, on a parlé justement de la passion qui t'animait pour la chasse. Et puis, cette semaine, on va aller un peu plus loin. On va parler de ce qui se passe au niveau de la chasse comme telle, parce qu'on a su, là, justement, que les jeunes accompagnaient les parents. C'est une histoire de famille. Mais là aussi, il faut dire qu'on n'arrive pas à un moment donné à un certain âge et on nous donne un fusil ou une carabine et on nous dit « Voici, fiston, ta formation est finie ». Non, ça se fait autrement, hein, Alice?
Oui, c'est totalement ça. Nous, chez nous, en France, on peut passer le permis de chasser français par l'intermédiaire. On a deux choix. Soit on fait la formule classique, c'est-à-dire que la formule classique, c'est on passe la théorie, qui correspond à peu près à une vingtaine de questions, sur la faune, sur les espèces, sur la balistique, sur les dates ou les périodes de gestation des animaux, sur tout ce qui a rapport avec la pratique de la chasse, disons-nous. Et on a à côté une autre partie qui est la partie pratique, c'est-à-dire qu'on va dire aux personnes de tirer avec un fusil et de tirer avec une carabine.
Oui, ça, parce c'est un point, je m'excuse, Alice, c'est un point qu'on a pas ici au Québec, là, d'où on nous fait manier une arme, mais on ne nous amène pas à tirer la fameuse arme, que ce soit un fusil ou une carabine. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que on va prendre la personne, une fois qu'elle a réussi, j'imagine, le théorique, on va passer au pratique, et le pratique est sur le terrain.
Tout à fait. Sur le terrain, enfin, tout ça se passe dans ce qu'on appelle un centre de formation. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi des centres d'examen. Ces examens sont passés par les agents de l'Office national de la faune sauvage. Ce sont eux qui sont habilités à faire passer le permis de chasser à toutes les personnes qui veulent devenir chasseurs ou chasseresses.
Voilà, donc ces personnes-là s'en vont en centre de formation. Mais qu'est-ce qu'ils font, là? Est-ce qu'ils font juste tirer sur des cibles
Non. Ils vont avoir toute une formation complète, à la fois théorique et pratique. C'est-à-dire qu'ils vont, on va leur apprendre. Apprendre les différents types d'espèces. On va avoir une formation théorique très pointue sur la balistique et sur les armes. Et on va aussi avoir, et avant tout, une formation très pointue aussi sur la sécurité à la chasse. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Avoir une formation théorique et pratique sur la sécurité à la chasse, c'est en France une des priorités pour limiter le nombre d'accidents de chasse.
Oui, exactement. Et tu me disais, bien naturellement, la personne, le jeune, que ce soit un garçon ou une fille, qui vont avoir suivi leur père et leur mère, ont déjà une notion de cette chasse, mais ça ne veut pas dire des fois que c'est la bonne, parce que papa, maman peuvent avoir des mauvaises habitudes. Et à partir de là, bien naturellement, ça va être corrigé. Et comme tu disais, il y a un... Explique-nous un peu, il y a un parcours qu'ils font, hein?
Voilà, donc... Là, je vais rebondir. Ça, c'était la première des solutions pour passer le permis de chasser. Mmh. Après, il y a une deuxième solution qui va corroborer ce que tu étais en train de nous dire en parlant de la chasse, que les personnes, hommes, femmes, chassent en famille ou vont à la chasse en famille. De ce fait, on peut avoir ce qu'on appelle la chasse accompagnée. C'est-à-dire que le candidat au permis de chasser va passer la pratique et ensuite il va accompagner un chasseur. Un chasseur va accompagner le candidat tout au long de la saison de chasse et il va remplir un petit carnet. Tout ce petit carnet sera remis pour l'examen et ensuite il va passer l'examen théorique et pratique. Mais il aura eu la chance de pouvoir pratiquer en action de chasse avec une personne. Et cette personne-là, elle aura suivi une formation spécifique comme parrain, dirons-nous, hein, comme parrain du futur chasseur. Ce qui fait que ce parrain pourra corriger le candidat, le futur candidat, lorsqu'il fera des erreurs ou pas.
Ah, mais ça, c'est une bonne idée de former justement le parrain ou l'accompagnateur parce qu'on sait que...
Tout à fait, c'est important.
Parce que cette personne-là peut avoir développé, elle aussi, des mauvaises habitudes ou des habitudes à ne pas transmettre.
Donc, cela lui permet aussi de se remettre en question et de revoir aussi les règles de sécurité. Alors là, je vais rebondir parce qu'on est totalement dans l'actualité. On a notre président de Fédération nationale des chasseurs, Willy Schran, qui a fait un communiqué il y a très peu de temps sur justement le fait que les personnes respectent encore plus la sécurité à la chasse. Et de ce fait, de rappeler les règles de sécurité à la chasse à chaque jour de chasse, pour chaque équipe de chasse et dans chaque société de chasse, afin d'essayer de limiter au maximum les accidents.
Oui, exactement. Puis on sait comment important ça peut être aussi dans des zones un peu plus restreintes de chasse. C'est pas comme ici au Québec où c'est des étendues à plus finir. Là-bas, c'est un peu plus restreint, donc c'est de plus important.
Oui, on a des zones.
Oui, des zones.
Exactement, on a des zones périurbaines, on appelle ça, mm-hmm. proches des villes, qui sont... Ce sont des réservoirs hein, pour certaines espèces comme le sanglier et pullule. Hein, et que les compagnies de sangliers sont de plus en plus importantes au bord des villes. Donc, il est très, très, très important d'avoir une bonne formation sur la sécurité à la chasse. Mais surtout, il est hyper important et c'est une priorité de respecter ce qui a été appris lors du permis de chasser.
Oui, absolument. Écoute, c'est tellement intéressant, Alice. Naturellement, là, la semaine prochaine, on va aller chercher un sujet qui t'affectionne beaucoup et que je crois ta maman aussi. On va parler de l'association ou la Fédération féminine des chasseuses.
De l'Association nationale de la chasse au féminin en France, tout à fait.
Voilà, ça va être... fort intéressant. C'est toujours intéressant ta prestation et on te remercie beaucoup. Et puis nous, bien naturellement, la semaine prochaine, on va aller faire un tour encore de l'autre côté de l'Atlantique et on va aller parler à Madame Pion.
Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à bientôt.
À bientôt.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Le froid, la neige. C'était à peine commencé que vous aviez déjà hâte au retour de l'été? Et si on changeait notre façon de penser? Et si les bordées de neige ne rimaient plus avec corvée de pelletage, mais avec plaisir? Et si on s'arrêtait 2 secondes pour contempler le paysage enneigé alentour de nous? À quel point c'est magique, féerique! Et si, comme des enfants, on s'emmitouflait pour aller jouer dehors, marcher, skier? Et si on appréciait l'hiver? Me semble qu'on serait bien plus heureux. Pour bien apprécier l'hiver, bien équipé et au chaud, ProNature Rouyn-Noranda.
Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année. De toute l'équipe de Monsieur Bouffe 2015, joyeuses fêtes et bonne année. C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.